là-bas si j'y suis. Là, je pars au boulot, là, ce matin, jeudi. Et puis, d'habitude, c'est la grand-messe libérale sur France Inter, tous les jours. Donc, je coupe la radio généralement, parce que surtout là, il fait beau, et puis je passe par la campagne, donc j'ai pas envie de gâcher ma matinée. Et là, surprise, il n'était pas 15h, pourtant il était bien 7h50, Lordon à France Inter. Ah ben là, j'ai laissé, hein. Ça allait bien avec le soleil qui se levait sur les champs de blé. Donc la matinée commence bien, hein. Et comme quoi, tout peut arriver. Allez, salut.
Ah, ça y est, c'est formidable. À 8h30, ce mardi 17 avril, Patrick Cohen fait de la publicité pour Daniel Mermet. Salut à tous.
Dis donc Daniel, tu nous avais caché que parmi les mesures proposées par Manuel Valls, il y avait ta nomination à la tête d'Inter, parce que le lendemain de l'annonce des 50 milliards d'économies, Frédéric Lordon, invité à la matinale, t'as fait fort. Merci, et je crois que t'as une belle carrière encore devant toi. Allez, à bientôt les AMG, bisous.
Oui, bonsoir, je voulais vous dire que j'avais écouté votre émission sur la sortie de l'euro avec Frédéric Lordon, et que j'avais été absolument écœuré de la manière dont vous parliez de la paix en Europe, avec un espèce de mépris, de condescendance, ça m'a énormément choqué. Voilà, j'appelle rarement quand j'entends une émission, mais là, franchement, c'était too much. Bonne soirée, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Ah, c'est bon ce matin d'écouter Frédéric Lordon chez Patrick Cohen, et puis d'entendre pour la première fois, je crois, enfin de mémoire d'auditeur de France Inter, pour la première fois, une promotion pour l'émission de cet après-midi, pour là-bas si j'y suis. Comme il y avait pas mal d'auditeurs qui se plaignaient que c'était jamais le cas, ben voilà, c'est fait. Il fallait que Lordon soit invité pour qu'on parle de là-bas si j'y suis le matin à la matinale. Donc ben, ça commence bien la journée finalement.
Oui, bonjour. Voilà, je viens d'écouter votre émission sur les années 80. Et je me souviens également d'un acteur, Richard Widmark, qui était passé sur un journal d'Antenne 2. Et ce type faisait montre d'un anti-réganisme complètement étonnant, venant d'un Américain et tout. Moi, je trouve qu'il serait bien de retrouver la trace de cette interview. Moi, j'aimerais bien qu'on montre aussi l'aspect d'un Américain anti-réganisme. Eh bien, salut à tous. C'était Stéphane de la Guerche. Au revoir.
Bonsoir, c'est dur de réécouter ces émissions des années 80. Bon sang qu'on n'a pas été bon. Cette année-là, j'avais 20 ans et ça fait quelque chose de réécouter ces émissions. Merci à toute l'équipe, merci à vous Daniel Mermet. C'est dur. Qu'est-ce qu'on m'a laissé à nos enfants? Merci encore.
Vous êtes quand même très partiaux, hein, là-bas, si j'y suis. Les années 80, c'était vachement bien. Les années 80, c'était les films de Philippe Clair avec Aldo Maccione, les films avec Bud Spencer et Terence Hill, c'était les films de Max Pécasse, c'était les années 80, c'était Didier Barbelivien, Partenaire particulier, Licence 4. Alors franchement, je vais vous dire un truc, vous n'avez aucun goût.
Eh oui, changement de direction, les temps changent sur France Inter. Le 7-9 vient de découvrir là-bas si j'y suis. On en est ravis. Et puis évidemment, ici à Kigali, on ne parle que de ça. C'est pas seulement Madrid-Barcelone dont on parle ici. C'est évidemment la rencontre Lordon-Guetta. Mais il se peut que ça ne se soit pas développé suffisamment au goût des auditeurs. Alors on leur demandera s'ils veulent venir tous les deux dans la basse, j'y suis dialogué. En tout cas, si vous êtes en manque de Lordon après ça, vous avez 2 heures consacrées à ce thème-là sur labas.org, la-bas.org, des 2 et 3 avril derniers. Là, vous avez Lordon en longueur. Et puis sinon, ben, ça fait une bonne dizaine d'années que Frédéric Lordon vient là-bas, si j'y suis. Et sur le même site, labas.org, la-bas.org, vous pouvez vous régaler et vous gaver de Frédéric. Et pas seulement, on va le retrouver aujourd'hui, tout de suite, dans la série sur les années 80, le cauchemar des années 80, avec Serge Halmy, avec François Cusset. Ça a l'air de vous plaire, le retour sur cette série. Nous, on est ici au Rwanda, à Kigali, qui est vraiment une ville magnifique, et c'est un pays magnifique, vraiment très très beau, où règne la sécurité, où règne l'ordre, où règne c'est merveilleux, formidable. On est content, on est heureux, et les Rwandais aussi sont très très heureux d'être dans ce beau pays qui ressemble à Singapour, ou presque. Donc, les années 80, le retour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Gisto, 01 56 40 37 37, et vive le Rwanda.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de la bassine, j'y suis, merci pour vos émissions. En fait, j'ai un sujet à vous proposer parce que dans le grand panier des agitateurs, des conférenciers agités et agitateurs, bon, évidemment, il y a les Franck Lepage, il y a les Lordons, etc. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Guillemin, qui est un historien qui est mort en 1992. C'est lui aussi un conférencier bien agité du bocal et qui nous fait bouger et qui nous donne une lecture de l'histoire qui n'est pas ordinaire. Et j'aimerais beaucoup que vous fassiez un portrait sur ce monsieur. Allez, bon printemps à tous et puis à bientôt peut-être.
Bonjour Daniel, ici Sébastien de Toulouse. Ça fait des années que tu as fait des éloges du chavisme et de l'action de Chavez au Venezuela. Aujourd'hui, il est mort et il a laissé au Venezuela un beau cadeau. Un pays dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, au-delà de la crise politique, il y a surtout une crise sociétale depuis plus de 2 mois où les gens s'entretuent et où la situation économique pour toutes les classes sont difficiles. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de porter un regard nouveau sur le sujet. Je pense qu'on peut pencher à gauche, mais il faut savoir garder les yeux en face des trous et assumer que quand un système politique ne fonctionne pas, malgré l'enthousiasme du début, ben, il faut savoir se remettre en question, quoi. Au revoir.
Bonjour Daniel, je voudrais juste donner un conseil à monsieur Manuel Valls, parce que il faut, là, bon, il prend des mesurettes, il faut une mesure un peu plus courageuse. Ben, écoutez, rétablissez la taille et la gabelle, hein. Ça a payé en son temps. Ben, voilà ce qu'il faut faire, ça c'est une mesure courageuse. Allez, salut Daniel.
Eh bien bonjour, c'est Fabienne. J'ai entendu tout à l'heure Marisol Touraine nous dire que, bah oui, Monsieur Servier est mort. Il a créé un grand groupe industriel, mais ce qu'on retiendra de lui, c'est le scandale du Mediator. Donc je suis ravie que Madame Marisol Touraine se soucie à ce point des grands groupes industriels. Pour ma part, je me glorifierai en mourant de n'en avoir point créé. Mais ce qui m'inquiète, c'est le réel scandale de la recherche qui nous a été révélé à cette occasion, la recherche médicale aux mains de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'ils ont des subventions d'État pour ce faire. Et voilà, et moi, depuis ce fameux scandale, je vois, tu entends toujours les mêmes émissions médicales à la radio, à la télé, à l'occasion, et rien ne change. C'était juste ce vilain monsieur Servier, le très très vilain monsieur Servier, on est bien d'accord, mais je pense qu'il n'avait pas le monopole de l'avidité capitaliste.
Aujourd'hui, 17 avril 2014, nous fêtons une date tristement anniversaire, car le 17 avril 1996, les paysans sans terre sont lâchement assassinés pour avoir tout simplement réclamé qu'on leur rende leur terre pour pouvoir cultiver et nourrir leur famille. Donc aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est la journée mondiale des luttes paysannes, et un peu partout en France et dans le monde, des actions sont initiées par des citoyens pour se remémorer ce triste anniversaire et pour aussi mettre en avant la paysannerie, les actions qui sont faites par les petits paysans, qui chaque jour luttent au quotidien pour vivre décemment. N'oublions pas que les paysans, ce sont ceux qui aujourd'hui nous permettent à nous, majoritairement citadins, de pouvoir manger tous les jours. Donc si vous avez l'occasion, chers AMG, d'aller à la rencontre de ces paysans ou sur un stand par rapport à cette journée-là, eh bien, n'hésitez pas à aller les voir, discuter, poser des questions et essayer de creuser un peu plus le problème assez profond du monde de paysans. Des grosses bises à tous, c'était Jérôme dans la Drôme.
Oui, salut, c'est Gilles. paysan de la Mayenne, là. Je suis en train de bêcher des parelles, comme on dit, dans ma prairie, là, avec mes vaches à côté qui sont en train de pâturer. Et puis, je vois sur la route, là, il y a mes chers collègues, là, les paysans, les chefs d'exploitation qui sont en train de passer avec leurs gros tracteurs et leurs grosses bennes, qui sont en train d'enfiler de l'herbe, si, pour faire de la place pour ensuite semer leur vénérable maïs. Et puis j'ai entendu ce matin que le maïs OGM allait être interdit en France. Super, super victoire, génial. Sauf que mes chers voisins, là, pour équilibrer leur maïs, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, je vous le donne dans le mine. Ils vont acheter du soja OGM. Donc pour finir, leurs vaches, elles boufferont quand même des OGM, quoi. Donc je sais pas si on résout quelque chose en interdisant le maïs fourrage OGM. Voilà. En tout cas, les miennes, elles produisent du lait avec de l'herbe. Elles n'ont pas touché un gramme de maïs depuis 2 ans. Et du soja OGM, encore moins, depuis plus de 10 ans. Voilà, c'était Gilou de la Mayenne. Salut.
Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, mercredi 16 avril 1980, voici le journal. Alain Bédoué, bonjour.
Bonjour. 1980, Ronald Reagan élu, John Lennon assassiné.
Mobile du crime, un autographe refusé.
Jean-Paul Sartre meurt le 16 avril 80.
Jean-Paul Sartre est mort hier soir à Paris. L'écrivain philosophe a succombé à un œdème du poumon.
Gérard Daboville traverse l'Atlantique à la rame.
Bonsoir les enculés du pouvoir socialiste.
Année 80. Les radios sont libres.
Alors c'est bien Carbone 14, c'est reparti.
Alors on a quand même dans le cul, hein.
Année 80, alerte au sida.
Une mystérieuse maladie qui a fait son apparition il y a environ 2 ans aux États-Unis.
Et toujours, l'URSS.
Le russe pilonne l'américain.
Année 80, victoire de Ronald Reagan.
America is back.
Pyramide du Louvre, action directe. Nouvelle-Calédonie.
Ici, les comités de lutte sont particulièrement actifs. Barrage, harcèlement des forces de l'ordre et intimidation des broussards.
L'entreprise récupère les libertaires.
Alors, Serge Julie, qui a été votre patron à Libération, alors là, vous lui taillez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là.
Désamorcer toute révolte.
En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Pénétrez dans cet univers musical. Attention, 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 c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Année 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Le Minitel, touche pas à mon pote, charité business, les restos du cœur, le pen qui monte, le sida. La 5, le fric, les paillettes, le cynisme des ex-gauchistes parvenus au pouvoir et qui disent « En 68, nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus ». Comment s'est opéré ce grand renoncement qui nous colle toujours au basket et comment s'en débarrasser ? Eh bien d'abord, allez voir comment ce retournement a pu se produire et envahir et coloniser et inhiber toute une époque, la nôtre. Nous partons pour une petite excursion dans les années 80 avec François Cusset, auteur de la décennie Le cauchemar des années 80, Frédéric Lourdon, auteur de La vérité sauvera le monde, Serge Halimi, auteur de Quand la gauche essayait et Le grand bond en arrière, parce que nous avons tous en nous quelque chose des années 80. Jacques Séguéla, ce sera pour une autre fois.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida.
lorsque l'acte unique sera adopté par les 12, l'Europe va vraiment devenir une zone unique sans frontières, un marché unique de 320 millions de consommateurs. Alors bien sûr, cela suppose de supprimer toutes sortes de barrières techniques, douanières. Au bout du compte, un marché trois fois grand comme celui du Japon.
Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin ont même dit non, quoi.
Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit.
Ah
Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là dans cette histoire d'acte unique,
c'était le 20 novembre 1986.
Oui, 20 novembre 86. Ce qui est très intéressant, c'est que en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances, parce que c'est une question tellement profonde, et je le redis, tellement structurante, qu'elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles, puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité.
Et voici le bébé de chaud pour les RI, les socialos. Les RPR craquent et les fachos, ce sont tous des rigolos.
Venaient ensuite Charles Pasqua et Robert Pendreau. Ambiance plutôt bon enfant avec la presse. Une ambiance contrastant avec l'atmosphère qui régnait dans le salon Murat. À l'ordre du jour, un seul point, un seul, l'organisation des travaux du Conseil des ministres. Finalement, ce premier conseil de l'époque de la cohabitation n'aura duré que 25 minutes. À sa sortie, Jacques Chirac a esquissé un sourire, mais il n'a fait aucune déclaration. Tous les ministres, sans exception d'ailleurs, sont restés muets.
Est-ce que c'est un moment clé, ça aussi, François, que
c'est ? D'abord, c'est le début de la cohabitation, hein, cette expérience inédite dans l'histoire politique française, avec la victoire de la droite législative, et donc un gouvernement Chirac sous présidence Mitterrand. Au début, on pense effectivement convergence, quand même, là aussi, des programmes politiques et des idées de fond, et que ça devrait donc se passer à peu près bien. Et puis, surprise, en juillet, Mitterrand refuse de signer les ordonnances donc, de privatisation ou dénationalisation, d'où cette crise, effectivement, presque de régime, hein, parce que là, Chirac fera usage du 49-3 et passera outre. Mais voilà, il y a tension. Il y a tension forte.
La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49-3 et motion de censure. Au menu de l'Assemblée nationale, le projet sera adopté la semaine prochaine. Hino remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape.
C'est intéressant. Je ne sais pas trop quelle lecture en faire. La lecture un peu cynique, c'est de dire que génie politique, quand même sans égal de Mitterrand, qui va accumuler entre 86 et 88 ce type de tension, à intervalles quand même pas trop réguliers pour éviter que le pays soit ingérable et qu'on l'en accuse, mais suffisamment pour en sortir vainqueur. C'est-à-dire pour incarner finalement l'unité nationale, là où son Premier ministre incarne l'idéologie de droite, une faction politique et une stratégie qui s'avérera payante. Quoi.
Serge Limy.
Je crois que quand Jacques Chirac revient au pouvoir en 1986, en mars 1986, le retour de la droite indique deux directions simultanées, qui est la direction autoritaire, laquelle est symbolisée par l'arrivée de Pasqua au ministère de l'Intérieur, et la direction ultralibérale, laquelle est symbolisée par la présence d'Édouard Balladur au ministère de l'Économie et des Finances. Et pendant cette période de deux ans, au cours de laquelle Jacques Chirac espère apparaître comme le prochain candidat à la présidence de la République et être élu président de la République, deux accros surgissent, deux gros accros. Le premier, qui est ce mouvement lycéen de décembre 1986, qui montre que cette politique ultra-sécuritaire, elle suscite des oppositions et un grand mécontentement dans le pays. Et le deuxième gros accro, c'est celui qui interviendra un peu moins d'un an plus tard, avec l'effondrement des cours à la bourse de New York, Wall Street qui perd 22%, ce qui fracasse aussitôt le rêve du capitalisme populaire où chacun s'enrichit, etc., puisque Wall Street perd 22% le 19 octobre 1987. Et je crois que ces deux gros accros vont considérablement handicaper Chirac lors de l'élection présidentielle qui suivra et contribuer à créer l'espace un peu centriste, à la fois libéral mais pas trop, à la fois autoritaire mais pas trop, France unie en quelque sorte, qui permettra à François Mitterrand d'être réélu.
En politique, le Parlement tient toujours la vedette. Après la bataille de l'ordonnance sur la privatisation, le projet de loi est maintenant aux mains des députés.
Tout a été réglé en moins d'une heure. Seuls se sont exprimés les ministres concernés et le rapporteur général du texte, ce qui suscita la protestation du groupe communiste.
Le gouvernement s'apprête à faire adopter, sans vote, le texte de dénationalisation de 65 entreprises du secteur public, mis au point hier au Conseil des ministres, grâce à la procédure autoritaire du 49-3. C'est une parodie de délibération, une censure de la représentation nationale.
Un peu de sérénité et sachons distinguer l'essentiel de l'accessoire. La voie législative, nous l'empruntons, car le pays nous a donné un mandat qu'il nous faut, sans faiblesse ni retard, remplir. J'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le projet de loi dont vous êtes aujourd'hui saisi.
Serge Halimi.
À mon sens, il y a deux surprises historiques, entre guillemets. D'une part, que la droite rompe aussi franchement avec sa tradition colbertiste, car après tout, privatiser ne faisait pas partie de ses habitudes. Elle avait été au pouvoir entre 1958 et 1981, et elle n'avait pas privatisé, et sans doute n'avait-elle pas privatisé, parce qu'un certain nombre des entreprises nationalisées l'avaient été du temps du général de Gaulle à la Libération. Donc là, on a une droite qui est vraiment, pour le coup, riganienne, assez américaine, très libérale. Et la surprise symétrique, c'est bien sûr que quand la gauche gagnera à nouveau les élections deux ans plus tard, elle ne renationalisera pas ce que la droite a privatisé, puisque François Mitterrand expliquera à l'époque que mon mouvement naturel avait été de récupérer les sociétés dénationalisées depuis deux ans. Si je ne l'ai pas fait, c'est par souci de psychologie des Français et de paix civile. Donc là, on a une droite qui, elle, n'hésite pas à mettre en œuvre son programme et une gauche qui recule devant la remise en cause des contre-réformes libérales mises en œuvre par la droite.
C'est vrai que la lecture de fond, c'est aussi que du coup, il y a convergence de la droite et de la gauche là-dessus, parce que cette droite un peu nouvelle qui apparaît sur les murs de France pendant la campagne des législatives de 86, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on voit, ils sont tous en bras de chemise, la cravate au vent,
oui.
Qui effectivement, c'est l'image même de l'entrepreneur, voilà, c'est vivement demain, c'est l'image plus de l'entrepreneur que de l'élu de la vieille République, quoi. Cette droite va finalement faire l'éloge du résultat principal des privatisations, qui est ce qu'elle appelle l'actionnariat populaire. Et ce discours des petits porteurs comme finalement la nouvelle figure de la démocratie française, hein, avant c'était le citoyen ou l'électeur, désormais c'est le petit actionnaire qui va s'unir.
Le petit rentier.
Voilà, le petit rentier, mais dont il faut trouver une forme d'union politique générale. Ce discours sera absolument repris par la gauche qui gagnera la législative en 88 et par le gouvernement Rocard. Donc là, on a convergence. Hein. Frédéric ?
Date assez importante, hein, mine de rien, tout de même, parce que les privatisations, c'est la forme la plus pure de l'économisme. L'économisme, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il n'y a pas une activité concourant à la reproduction matérielle des hommes qui ne saurait échapper au marché. C'est le refus dogmatique qu'on puisse accepter des coûts économiques pour atteindre des objectifs qui ne le sont pas, pour poursuivre des finalités qui sont extra-économiques. Ben, créer une soupape d'emploi sur un marché du travail tendu, aménager de manière à peu près équilibrée le territoire dans ses infrastructures de transport, je pense à la SNCF, sécuriser des installations énergétiques à risque, comme le nucléaire, EDF. Et tout ça, c'est des finalités extra-économiques dont pourtant il serait assez utile d'accepter les coûts économiques. Eh bien, c'est cela que la privatisation refuse. La privatisation envoie le message qui consiste à dire que la logique économique est hiérarchiquement supérieure au sein de toutes les logiques sociales et que toutes les logiques extra-économiques devront s'ajuster une fois réalisée la satisfaction des contraintes de la logique économique.
L'économisme passe d'abord. C'est l'économisme contre le politique.
Absolument.
Et le politique viendra après, courra derrière.
Exactement.
Définitivement.
C'est le renversement de la proposition selon laquelle l'intendance devait suivre. Non, là, l'intendance précède. Et c'est le reste qui s'adapte.
Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier.
Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, le retournement de tendance sur les marchés financiers internationaux. Hausse de 0,8% à la Bourse de Paris. À New York, Wall Street s'est ressaisie après la panique d'hier soir. Dans quelques instants, analyse et commentaires en compagnie de Philippe Sassier, notre spécialiste, et de nos correspondants à l'étranger.
On risque d'avoir des développements au moins aussi graves. Parce que les déséquilibres fondamentaux du monde et de l'économie américaine, les deux sont liés, sont infiniment plus importants qu'ils n'étaient en 1929.
Qui aujourd'hui, Frédéric Lordon, se souvient de ce crack de Wall Street du 19 novembre 1987 ?
Ah, pas mal de monde quand même, hein, parce que ça leur a rougi les fesses, hein, cette affaire. Ça, vraiment, là, ils avaient dégusté. Non, et puis en plus, ça avait le bon goût d'être tombé un jeudi d'octobre. Et le dernier, voilà, et donc le fameux jeudi d'octobre comme 1929. C'est ça le truc intéressant d'ailleurs, c'est que 1987 c'est le crack, mais 1986 la déréglementation financière est passée par là. Les marchés financiers qui étaient tout étriqués, la bourse qui était croupion, qui vivotait. Mais là voilà, on reprivatise et puis on ouvre les marchés financiers. Alors c'est l'euphorie, c'est la joie, les clubs d'investissement et tout le tremblement. Et 1987 c'est le mélange toxique de la déréglementation financière et des privatisations. Pourquoi ? Parce que les privatisations propulsent sur les marchés financiers des petits épargnants qu'on a achalandés avec les pires arguments possibles, c'est l'Eldorado à tous les coups l'on gagne, sur des marchés financiers dont la principale propriété est leur extraordinaire instabilité. Du coup, nous allons renouer avec un certain type d'événement historique qu'on n'avait plus connu depuis presque 60 ans, puisque en effet, le dernier krach remontait à 1929, tout de même, une paye, n'est-ce pas ? Alors là, l'interaction des deux, ça va être tout à fait prodigieux, puisque les privatisations commencent vraiment sous les flonflons. Moi, j'ai encore dans l'oreille, madame, monsieur, la pub qui nous annonçait la privatisation de Paribas, on voyait s'ouvrir la porte de bois ouvragée de la rue Dantin, ça débouchait sur l'orangerie, c'était absolument merveilleux. Tous les bijoux de famille les plus reluisants ont été passés à la privatisation et ça marchait du tonnerre. Les émissions étaient sursouscrites, c'était vraiment formidable. Alors, vient le tour de la compagnie financière de Suez. Après Madame, Monsieur, etc., il faut trouver un truc vraiment là pour les faire venir. Alors, on va chercher Catherine Deneuve.
Quand on vous dit Suez, si vous pensez Deneuve, c'est que la coûteuse campagne de publicité que s'est offert le groupe pour fêter son retour au privé a déjà porté ses fruits.
Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire du groupe Suez. Réfléchissez.
Catherine Deneuve fait l'article pour la privatisation d'Indosuez.
Vous alliez dire tapine et puis vous avez...
Oh non, ça c'est vraiment... Là, ça c'est pas vrai, ça n'a même pas effleuré mon palais. Mais là, non. malheur.
Les Français préfèrent.
Oui, bien sûr, je les comprends d'ailleurs. Catherine Deneuve n'avait pas sitôt parlé que badaboum, la bourse perd 20% en une seule journée. Évidemment, c'est terrible. Alors, on parlait il y a un instant de la pédagogie boursière. En matière de bourse, il y a aussi la pédagogie du réel. Et celle-là, ça va être la première leçon administrée aux petits épargnants et elle va être sacrément cuisante.
Dans cette affaire, ceux qui auront le plus perdu, les petits épargnants. C'est la première année que j'investis en bourse. J'ai tout perdu, $80,000.
Le malheur, c'est qu'il va y en avoir d'autres après. Et même assez nombreuses, on n'en voit pas le bout. Hein. Et ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre implacablement, en vertu de la logique qui veut que les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
Can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning?
Bruxelles, les quotidiens ne se contentent pas de rapporter par le détail l'événement d'hier, qualifié d'historique. Dans leur ensemble, et quelle que soit leur orientation politique, ils applaudissent plutôt la réélection de François Mitterrand. Sous le titre « La génération Mitterrand a gagné », le soir de Bruxelles évoque une vague sereine, plus soucieuse du bon sens commun que de gloire gaullienne ou d'activisme chiracien. Sic, la catholique libre Belgique parle de président rassembleur, le rassemblement et la nécessité de gouverner au centre, étant d'ailleurs les thèmes les plus exploités par la presse ce matin. Jacques Chirac, qualifié de beau joueur, se voit quant à lui décerné de bons points pour sa politique économique, dont, comme le souligne la libérale dernière heure Les Sports, la France tonton maniaque devra tenir compte. Bruxelles, Daniel Deloye, France Inter.
Alors voilà, ça c'est un document du 9 mai 1988, la réélection de François Mitterrand à 54% et les approbations de Bruxelles. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière parce qu'on a arpenté très rapidement, on a enjambé l'année 87 un peu rapidement. Il faudra quand même ne pas oublier Le Pen et son détail hein, en septembre 87 sur RTL, ce qui n'était pas rien.
Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est...
millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je l'ai compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail, quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale.
Le Pen, qui s'exprime à Dreux en 87.
Eh bien, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes.
Donc on enjambe un petit peu les événements, on ne peut pas détailler jour par jour ces années 80. Sur la réélection de Mitterrand, qui veut commenter?
Ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec donc réélu à plus de 54%, tire les fruits à la fois du tournant social-libéral de 83-84, d'une stratégie extrêmement fine et maligne de gestion de la cohabitation. Et finalement, ce que ça signifie, c'est que la France se dit désormais une république du centre. Et à regarder même le
débat... Ça nous dit quelque chose pour aujourd'hui. Hein
oui, mais à regarder le débat... Parle. C'est purement stratégique, parce que si on regarde le débat présidentiel Mitterrand-Chirac, qui alors a un morceau de bravoure, enfin, qui est superbe, on se rend compte que Chirac a l'air d'un idéologue, d'une sorte de dinosaure de l'âge politique et idéologique, cet âge révolu, c'est-à-dire qu'il a quelques idées à défendre et un programme qui a l'air spécifique, là où Mitterrand ne lui parle que continuité historique, continuité de la République, union, consensus, paix sociale, bref, celui qui, arrivant à couvrir le spectre qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, garantira à la France cet ordre sans lequel les marchés ne seraient pas satisfaits. Donc effectivement, que Mitterrand soit applaudi par Bruxelles et par la Bourse est normal. Il signifie que la France est plus au centre qu'elle ne l'a jamais été. L'ironie de l'histoire étant bien sûr que dans les années qui suivent, elle le sera moins.
Je crois qu'il y a, Serge Halimi. Il y a deux grosses différences entre l'élection de 81 et la réélection de 88. Une qu'on a déjà signalée, qui est évidemment la réaction de la Bourse, qui panique en 81 et qui salue la réélection de François Mitterrand en 1988. L'autre grande différence, elle apparaît à travers le slogan qui est « Génération Mitterrand ». Entre-temps, le pouvoir, y compris le pouvoir de gauche, surtout le pouvoir de gauche, s'est extraordinairement personnalisé. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, l'un des slogans de sa campagne, c'était quelque chose du genre « Le premier désir de la droite, garder le pouvoir, ma première ambition, vous le rendre ». Et il arrive au pouvoir... en quelque sorte, poussé par un mouvement populaire sur la base d'un programme politique avec des ambitions collectives. Quand il revient au pouvoir, c'est vraiment l'engouement individuel, la génération Mitterrand. Si vous voulez, la gauche a disparu dans la lettre aux Français qu'il adressera personnellement, qui est sa propre écriture, qui ne sera pas avalisée par le Parti socialiste ou par le Parti communiste ou par quelque structure que ce soit. Dans cette lettre, on ne voit pas une seule fois apparaître le mot « socialisme ». Et dans cette lettre, il y a tout ce qui, en quelque sorte, débouchera sur la politique économique des années suivantes, cette espèce de stabilisation libérale, là où elle est, ni privatisation ni nationalisation, qui permet surtout, compte tenu du fait que François Mitterrand est quand même le candidat de la gauche, de signaler qu'il n'y aura pas de nationalisation. On n'attend pas encore, à l'époque de lui, des privatisations. Donc c'est en quelque sorte un engagement conservateur. Et je crois que là, c'est les deux grosses différences. D'une part, la réaction de la bourse, et d'autre part, ce pouvoir personnalisé à tel point que la réélection de Mitterrand, on se demande si c'est vraiment une victoire de la gauche, ou si c'est pas davantage la victoire d'un homme.
Pour savoir où va une présidence, en effet, demandez-vous par qui elle est saluée, c'est-à-dire de qui le président réélu est-il l'ami. Il est l'ami de Bruxelles et il est l'ami de la Bourse, on vient de le dire. Il est l'ami de Bruxelles, ça n'a rien d'étonnant, ça on l'a déjà vu dans une tranche précédente. Mitterrand a remis la France dans les clous européens en 1983, il a négocié le sommet de Fontainebleau et la relance vers le grand marché qui finira en acte unique signé par Jacques Chirac, et d'une certaine manière, il lance cette grande dynamique absolument continue, transalternance, transpartisane, qui va voir se succéder les gouvernements de gauche, de droite, mais tous fidèles à l'orientation européenne. Pas de surprise, là. Salué par la bourse, bien sûr, parce que à partir de 1983, le socialisme de gouvernement est le meilleur ami de la finance. Il fait la déréglementation de 1986, il multiplie les encouragements par voie d'incitation fiscale à l'orientation de l'épargne des Français vers les produits d'action, les PEA, c'est quand même une grande affaire socialiste. Les socialistes apporteront leur écho aux privatisations, et même plus que leur écho avec Lionel Jospin un peu plus tard. Ils chanteront glorification et défiscalisation des stock-options avec Strauss-Kahn. Ils institueront l'épargne salariale financiarisée qui sera une amorce de fonds de pension avec Laurent Fabius en 2001. C'est vraiment très très grave. La financiarisation sera complètement achevée et malheureusement, je le crains, irréversible.
En écoutant, en vous écoutant tous les trois, là, parce qu'on a tous les quatre vécu, et puis beaucoup d'auditeurs ont vécu quand même ces années-là.
Survécu
à ces années-là. On se dit, mais que pensions-nous à l'époque? Que disions-nous à l'époque? Que pensaient les... Est-ce que les Français se rendaient compte de ce qui leur arrivait? Là, sur cette élection, est-ce qu'ils ont cru réélire un homme de gauche ou, comme le dit Halimi, réélire Mitterrand?
Au demeurant, lorsque la droite revient au pouvoir en 1986, c'est une droite extraordinairement à droite, qui ne correspond pas à ce qu'on avait connu précédemment, et va donc se constituer contre cette droite autour de François Mitterrand, faute de mieux, mais il est là, et il semble être en mesure de barrer la route à Chirac, une espèce de réaction défensive à ce que cette droite a révélé d'elle-même pendant ces deux ans. Il faut se souvenir que le discours d'investiture de Jacques Chirac en 1986 devant l'Assemblée nationale est l'une des déclarations les plus ultra-conservatrices de l'histoire politique française. Là, c'est une affirmation reaganienne, d'ailleurs. Reagan et Thatcher sont les modèles de la droite française à cette époque. Donc, il va se constituer en forme, en quelque sorte, de défense, de réaction à cette droite. Un soutien à François Mitterrand. Beaucoup de gens ont compris que ça n'était pas le président de gauche qu'ils espéraient en 1981. Mais ils se disent, devant la tempête, faut qu'il fait le délicat.
Mais est-ce qu'au fond, est-ce que la France, à ce moment-là, est au centre? Est-ce que c'est la fin de la bipolarité?
Elle est assoupie politiquement et sociologiquement, en partie par les discours qui lui sont tenus sur la fin des polarités de classe, la nécessité de l'entreprise, le consensus sur l'Europe et sur les marchés. Ce paysage-là de la République du centre est faux. En revanche, les médias y croient tellement ou ont tellement envie d'y croire et en font tellement état qu'il y a un effet un peu, vous savez, de prophétie autoréalisatrice où effectivement les gens se pensent au centre, ce qui évidemment jouera à terme, en faveur des votes extrêmes, c'est-à-dire d'une réaction d'électeurs qui, eux, se repolitisent, considérant que tout ça est évidemment un grand mensonge, ce qui favorisera finalement, à terme, à long terme, l'extrême-gauche pour d'autres raisons qui sont la fin des années 90, et à court terme, le vote Le Pen qui continuera d'augmenter.
Tu trouves ça rigolo?
Oui, rigolo. Hein? Rainman, il a les dents rigolotes.
Rainman?
Oui.
J'ai dit Rainman?
Oui, il est rigolo, Rainman.
Et puis, des noisettes en moins pour l'écureuil, et cela en partie à cause des privatisations. Les épargnants ont délaissé les livrets A de la Caisse d'épargne. Des mesures d'encouragement pourraient être annoncées dès aujourd'hui par M. Balladur, avec un relèvement du plafond des dépôts et une hausse des rémunérations. La météo, chaud, beau, partout.
Mais qui joue en première base? Qui, le nom du type qui joue en première base? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis?
Prison bloquée, commissariat submergé,
procès reportés comme celui d'Action Directe.
Qui joue en première base? Qui, le nom du type qui joue en première base?
PTT, Transport Urbain, Air France, Sécurité Sociale, EDF. À peine un feu s'éteint qu'un autre s'allume. Toujours les mêmes revendications.
Qui joue en première base? Qui, le nom du type qui joue en première base?
Salaire, conditions de travail. La rigueur passe moins bien quand l'économie va mieux.
Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis? Qui? Pourquoi tu me demandes ça?
Qui là? Pourquoi il fait ça? Qui en première base? Quand il est nerveux, il récite qui est en première base. Le skate d'abord des
Qui joue en première base? Qui, le nom du type qui joue en première base? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis?
Politique. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les deux projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques.
L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État.
Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion.
Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres.
Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge.
Voilà, là on est content quand même, c'est le 13 juillet 1988, on a l'ISF, 4 milliards de francs qui vont être attribués aux pauvres.
On parle à ce moment-là des exclus, et c'est la première fois dans les débats politiques français que ce mot désormais hyper courant apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remplace les pauvres, les nouveaux pauvres, les prolétaires. On a ce terme d'exclus qui est très intéressant parce que littéralement, il dit bien qu'il y a cette espèce au centre, cette machine sociale qui serait la classe moyenne, ceux qui se réalisent par le travail et leur vie sociale, et puis ceux qui en sont exclus, que quelques mécanismes régulateurs vont tenter de réintégrer. Mais cette espèce de dialectique du dedans et du dehors, de l'intégration et de l'exclu, apparaît à ce moment-là. C'est un moment effectivement clé, parce qu'en gros, la façon dont on parle de la pauvreté aujourd'hui date exactement de ces débats de 88 sur le RMI.
Frédéric Lordon.
Oui, il faut se souvenir tout de même que parmi les facteurs qui ont causé la défaite électorale de la droite en 88, il y a eu la très maladroite suppression de l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, ancêtre de l'ISF, par Jacques Chirac, qui s'en est mordu les doigts longtemps après. Alors évidemment, la recréation d'un impôt équivalent sous le nom un peu différent d'ISF apparaît comme une reconquête de gauche absolument magnifique. Et comme vous le disiez, on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Il faudrait être bête pour s'opposer à une si bonne politique socialiste. Évidemment, même avec peu de recul, on pouvait s'apercevoir qu'on entrait là dans le registre de l'alibi et de la verroterie de la politique fiscale, c'est-à-dire de la gesticulation symbolique qui redistribue des masses financières finalement de volume extrêmement maigre et qui permettent de faire passer en contrebande toute une série d'autres choses qui, alors là, pèsent singulièrement plus, comme la désindexation des salaires à laquelle on a procédé entre 1983 et 1986, l'explosion des revenus financiers, etc. etc. Et ça va tout à fait bon train. On pourrait observer néanmoins que dans cette logique de l'alibi et de la verroterie, il y avait finalement deux instruments. Il y avait la redistribution fiscale de troisième ordre et puis il y avait des efforts quand même qui étaient consentis par la gauche pour faire bonne figure sur le terrain des mœurs sociétales, culturelles, etc. Or, que verra-t-on au bout de quelques années, c'est-à-dire lorsque la gauche reviendra au pouvoir à partir de 1997, c'est que ne restera plus que le deuxième instrument, celui des mœurs, et finalement, ça n'est plus qu'avec le Pax qu'on achètera la tranquillité sociale. Même l'instrument fiscal aura été mis au rebut, puisque comme vous le savez, la gauche reviendra armée de très bonnes dispositions orthodoxes selon lesquelles augmenter les impôts, ça nuit à la croissance. Donc pour ce qui est des redistributions, vous repasserez.
C'est le grand bond en arrière.
Disons en tout cas que les accomplissements de la gauche sont singulièrement revus à la baisse avec le temps. En 36, on avait eu les congés payés, les 40 heures et l'office du blé. En 44-46, on avait eu la sécurité sociale. En 81, une augmentation substantielle du salaire minimum, de la dépense publique, les nationalisations. Là, en 88, alors bon, vous allez avoir quelque chose, mais regardez bien, ça va pas durer longtemps. Vous avez le RMI et la Nouvelle-Calédonie. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut pratiquer une politique qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, orthodoxe, pour ne pas dire conservatrice.
Stop!
C'était la décennie, le cauchemar des années 80, le quatrième volet d'une série préparée par Renaud Lambert. Merci à François Cusset, Serge Halimi et Frédéric Lordon. Leur bibliographie, La décennie, le grand cauchemar des années 80, un livre de François Cusset aux éditions La Découverte, Le grand bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde, un livre de Serge Halimi aux éditions Agone, et Libération de Sartre à Rothschild, un livre de Pierre Rimbert aux éditions Raison d'agir. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site là-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Alexandre Abergel et Michel Thomas. Cette émission a été réalisée par Guillaume Giraud, Franck Adhérer et Yann Chouquet, préparée par Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et tout de suite, on retrouve Hervé Pochon, un ancien reporter de Daniel Mermet, un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue pour No Gazaran. C'est une projection du film de Doris Butignol et Carole Menduni au Reflet Médicis. Et c'est un film, évidemment, sur le gaz de schiste. Bonjour Doris.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser un film sur le gaz de schiste?
Mais en fait, j'ai toujours voulu réaliser un film sur le gaz de schiste. C'était mon rêve de jeunesse.
Vous êtes passionnée par le gaz de schiste?
Oui, je suis passionnée par le gaz de schiste.
Ça vous fait rêver?
Et donc, ça me fait planer. Et donc là, j'ai enfin eu l'occasion de pouvoir réaliser ce film, puisque j'habite sur une zone qui est concernée par le gaz de schiste. Donc,
vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent alors?
Le permis de Montélimar. Non, je ne suis pas exploitante. Je suis habitante d'une région qui est concernée par un permis. Donc, voilà.
Quelle idée vous aviez au départ? Vous êtes lancé là-dedans en sachant que vous étiez contre ou, comme disait Marc, votre producteur, j'avais pas d'idée, voilà.
Non, quand on a commencé à tourner sur l'affaire du gaz de schiste, on a découvert au fur et à mesure les mécanismes et les rouages de cette usine à gaz, on va dire. Donc, au départ, moi, l'information que j'avais, c'était, on avait une information qui venait du Québec, des réseaux citoyens là-bas. Il y a quelqu'un du Québec qui était venu et qui avait donné des informations. Il y a eu le film Gazland, et à partir de là, on a cherché...
Gazland, c'est un film qui a été réalisé par un citoyen américain, et on lui proposait de faire des forages chez lui, et puis il s'est dit, voilà. Je vais quand même aller faire un tour pour voir, voilà. Et puis il a vu toutes les horreurs.
Voilà, exactement, et à partir de là, effectivement, on a commencé à se documenter, à chercher des expertises indépendantes. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça soulevait beaucoup de problématiques, non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau économique. Et donc, moi, assez vite, ma position, elle était contre. J'ai pas trouvé d'argument durant ces 3 années d'enquête en faveur du gaz de schiste. C'est pour ça que le film s'appelle No Gazaran.
Là, vous faites un débat et il y a personne qui est pour le gaz de schiste.
Oui, en fait,
c'est dommage, cette unanimité.
Ouais, moi, j'aurais bien aimé qu'Arnaud Montebourg soit là, mais il avait un agenda un peu chargé en ce moment. On le comprend.
Alors, quand vous entendez Arnaud Montebourg qui dit mais non, mais moi, je suis pour, il faut qu'on fasse de la recherche et tout ça.
Non, mais je pense qu'il a vraiment un petit poids à la place du cerveau, qui s'est laissé complètement embobiner, qu'il n'a même pas vérifié le moindre chiffre qu'on lui a proposé, c'est-à-dire qu'il répète comme un perroquet 100 000 emplois, 100 000 emplois, 100 000 emplois. Même Bruno Courme de Total, qui est le responsable pétrole de schiste pour l'Europe, dit qu'il y aura au maximum en France 2 500 emplois. Donc les 100 000 emplois, il faut arrêter de répéter n'importe quelle bêtise sous prétexte qu'on l'a lu dans le journal une fois. Ce qui est marrant, c'est que quand il était candidat à la primaire du PS, il était très violemment anti-schiste.
Ah.
Et il a fait un site internet qu'il a soigneusement demandé à nettoyer. Hein. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est très difficile de perdre les traces des sites. Et donc, sur les sites d'archives, on les trouve. Et moi, j'ai son site, sur ma machine.
Où il était anti-schiste.
Il était anti-schiste, 100%, en disant que c'était une catastrophe, qu'il ne fallait pas y aller, que c'était monstrueux, qu'il se battrait toute sa vie pour ça. Bah oui. Donc, soit il a une veste double face dont il a préféré la doublure, Je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'il avait une belle veste, mais qu'à l'intérieur, la doublure était plus belle encore, donc il l'a retournée.
Vous avez une jolie veste asiatique, chinoise.
Chinoise, avec une doublure rouge.
Doublure en soie.
Absolument.
Et pourquoi ce côté chinois, asiatique?
La sérénité, peut-être.
Ah, voilà.
Ouais, ça doit être ça.
Alors, est-ce que vous êtes optimiste, maintenant?
Non.
Pourquoi?
Jamais. Parce que je pense que le combat qu'on mène, même si on le mène très bien, c'est on ne fait que mettre des petits cailloux dans les chaussures des gens pour les empêcher de marcher. Mais les petits cailloux, ils s'enlèvent, donc il faut en remettre un autre. Donc ils vont s'arrêter un peu plus loin, ils enlèveront le petit caillou que j'ai mis, puis il faudra remettre un petit caillou.
Si on veut en savoir plus sur votre travail, Isabelle, eh ben on tape collectif du pays Fertois. Doris, vous qui avez réalisé Nos Gazaranes, vous pensez qu'il n'y aura jamais de gaz de schiste en France?
Non, ça je ne pense pas qu'il n'y aura jamais de gaz de schiste en France. Ça, c'est tout à fait possible qu'un jour le gaz de schiste arrive en France.
Et ça vous inquiète? Ou vous vous dites un jour ça peut arriver, mais ça sera du gaz bio?
Non, ça va dépendre vraiment du rapport de force entre le mouvement citoyen et les décideurs. Moi, je pense que c'est vraiment là que ça se joue. De toute façon, ce n'est pas une solution, le gaz de schiste. Le gaz représente 15% de notre facture énergétique. Donc, quand bien même on arriverait à produire la consommation, l'équivalent de la consommation française en gaz, on n'a pas réglé le problème de l'indépendance énergétique. Par ailleurs, les études montrent que l'exploitation du gaz de schiste en France serait bien plus chère que celle aux États-Unis du fait des contraintes environnementales. Et donc, il serait moins cher d'acheter le gaz exporté par les États-Unis. Donc, il n'y a pas de sens à investir dans une exploitation industrielle de gaz de schiste en France. Par contre, il y aurait du sens à investir ailleurs, sur d'autres formes d'énergie.
Et si on veut en savoir plus, eh bien, il y a Nos Gazaranes de Doris Butignol donc, et Carole Menduni.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Et si vous rencontriez la poule aux œufs d'or? Ce samedi, jackpot loto de Pâques de 10 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 10h à la Martinique, 16h à Paris et vous écoutez France Inter. Les informations vous sont présentées par Laetitia Gaillet.
Le dossier qui tranche avec l'image de modestie que veut montrer François Hollande, d'après le site d'information Mediapart cet après-midi. Aquilino Morel, le conseiller du président, aurait des attitudes de marquis, dit-on. Un cireur vient lui cirer ses chaussures de luxe régulièrement à l'hôtel Marigny dans un espace qu'il a privatisé. Il disposerait aussi de deux chauffeurs, un pour lui et un pour ses proches. Outre cette attitude, Mediapart affirme aussi que ce médecin énarque est certes l'auteur d'un rapport très médiatisé sur l'affaire du médiateur. Il l'avait signé à l'époque en tant qu'inspecteur de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. Mais Aquilino Morel aurait aussi travaillé en cachette pour des laboratoires pharmaceutiques, y compris au moment où il était censé les contrôler. Information donc du site Mediapart. Alors qu'à Genève, on tente de trouver depuis ce matin des sorties à la crise ukrainienne. On parle d'ailleurs en ce moment de solutions écrites aux problèmes sans plus de précision. Sur le terrain, près de 200 insurgés pro-russes, eux, ont manifesté aujourd'hui contre le pouvoir de Kiev. À Mariupol, dans le sud-est du pays. C'est précisément là où, la nuit dernière, une attaque contre la garde nationale a fait 3 morts. Par ailleurs, on apprend que Kiev aurait décidé d'interdire l'entrée sur son territoire aux hommes russes de 16 à 60 ans. La compagnie aérienne russe Aeroflot affirme avoir reçu aujourd'hui un avis officiel du gouvernement ukrainien. De Moscou, où il intervenait lui à la télévision, Vladimir Poutine a prôné aujourd'hui le dialogue. C'est, dit-il, la seule issue à la crise. Mais le président russe maintient la pression militaire et veut des garanties pour les populations russophones de l'est de l'Ukraine. 61 délégations officielles, 800 000 fidèles. Rome va faire le plein pour le week-end de Pâques à l'occasion des canonisations des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Manuel Valls représentera la France et d'après le Vatican, François Fillon et Bernadette Chirac seront également présents, mais à titre privé. La cérémonie se déroulera sur la place Saint-Pierre et sera retransmise sur grand écran. 500 cinémas de 20 pays retransmettront également l'événement gratuitement pour certains et ce sera même visible, dit-on, en 3D. Si l'on devait donner une note sur 20 à la sûreté nucléaire en France, eh bien ce sera entre 12 et 13 sur 20 selon l'autorité de sûreté nucléaire qui a remis son rapport annuel aujourd'hui au Parlement. La situation est jugée globalement assez satisfaisante. En même temps, le président de l'ASN affirme avoir été habitué jusqu'à présent à de meilleures notes. Le jeune preneur d'otages d'un animateur d'une radio locale près de Troyes dans l'Aube a été interpellé cet après-midi par les policiers du RAID. Interpellé alors qu'il s'était réfugié sur le toit de la station. Il avait relâché l'animateur en début d'après-midi. Il aurait un contentieux avec le directeur de la station de radio. Des retards pour les trains Eurostar aujourd'hui jusqu'à 3 heures. La faute à un enchaînement d'incidents ce matin. Le transporteur parle notamment de défaillances électriques dans le tunnel. Enfin, Nadal, Ferrer, Wawrinka, Raonic, Tsonga et Federer, tous se sont qualifiés cet après-midi pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Monte Carlo. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches, mais alors, à 20h10,
c'est presque un genre en soi.
Le masque et la plume.
J'aime bien ça.
Non. Mais ouais. Jérôme Garcin.
Merci pour cette intervention. D'autres interventions, non ?
Littérature.
Donc jusqu'à la page 17, moi j'ai trouvé ça hilarant.
Cinéma.
Magnifique.
Théâtre.
Ah oui.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques, et vous me perturbez.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume,
on a envie de tout sauf de pleurer.
Rendez-vous ce soir dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Ce disque nous a accompagnés ces jours-ci. Son auteur, pianiste et chef d'orchestre est venu en parler tout récemment, Myung-Hoon Chung donc. Et ce disque de pièces bien connues, de classiques favoris, quelquefois les enfants, les jeunes filles, les jouent à la maison ou les jouaient, parce que maintenant évidemment avec toutes les possibilités de musique par l'électronique, on joue un peu moins de piano chez soi. Mais quand même, voilà quelques belles images, quelques bonbons, quelques belles parole musicale, Schumann, on peut entendre Franz Schubert, Chopin, et puis le bien-aimé Mozart. L'autre jour, avec Myung-Hoon Chung, on a pu entendre le début des 12 variations sur « Ah, vous dirais-je, maman », ce qui cause mon tourment. Et ben, voici la conclusion, tout simplement. Et après, je vous dirai quelque chose de sympathique à propos de ce disque ECM. Thank you. Conclusion des 12 variations sur « Ah, vous dirais-je, maman », charmante chanson populaire, reprise par Mozart, donc, et interprétée par Myung-Woon Chung, l'actuel chef de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, entre autres. Donc, ce disque, vous pourrez peut-être le gagner en faisant le numéro de France Inter, question de rapidité et de chance. Je rappelle, 01 45 24 7000, 01 45 24 7000, il y a 50 enregistrements ECM à gagner. Et si ça ne marche pas, ben, vous pouvez vous consoler dans la région de Soissons, chers amis, de l'Aisne, si vous êtes là samedi, après-demain. Donc il y a un concert exceptionnel à l'occasion du 5e anniversaire de la Symphonie des siècles. C'est un atelier départemental d'orchestre symphonique mené par François-Xavier Roth. Alors il y a des jeunes des conservatoires du département qui jouent avec les artistes confirmés des siècles, orchestre tout à fait professionnel. Et là, il y a une soirée festive avec des solistes qui ont participé. Donc Jean-Marc-Philippe Varjabédian, violoniste, Marie-Joseph Jude, pianiste, Jean-Philippe Collard de même, et Christian-Pierre Lamarca, violoncelliste. Alors ça se passe donc samedi, et c'est au Mail, scène culturelle de Soissons, samedi à 20h, 10 et 5 euros, et en dessous de 18 ans, on gagne de toute façon, c'est gratuit. Voilà. Et je vous propose d'entendre Svetlin Roussev, qui est un fameux violoniste, et qui est justement aussi soliste, super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et il a enregistré avec François